Voici le journal de Thomas Cluzel.
Les négociations sur le Brexit ont repris aujourd'hui à Bruxelles, mais c'est à Londres que nous nous rendrons au tout début de ce journal où la campagne entre pro et anti-Brexit regagne du terrain. Une nouvelle pétition appelant à libérer le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov détenu en Russie a été lancée aujourd'hui face à une apparente indifférence du Kremlin. Nous écouterons l'un des signataires de cette tribune, le romancier Jonathan Little. Comment lutter contre la prolifération des téléphones portables en prison? La chancellerie française a lancé simultanément deux grands chantiers, le brouillage des communication et l'installation de téléphones fixes dans les cellules. Explication dans le journal de Maïwenn Bordron. Enfin, après la lettre du pape François hier exhortant les catholiques du monde entier à se mobiliser face aux crimes pédophiles, un prêtre français a décidé de prendre la plume pour réclamer la démission de Monseigneur Barbarin, nous racontera Jade Péchira. Le compte à rebours du Brexit a donc repris aujourd'hui avec le retour des négociations à Bruxelles entre le négociateur européen Michel Barnier et le nouveau ministre britannique chargé de régler la question du divorce, Dominic Raab. La date de sortie du Royaume-Uni de l'UE est toujours fixée au 29 mars. Autant dire que le temps presse, Londres et Bruxelles disposent d'à peine plus de 7 mois pour s'entendre sur un accord de retrait et c'est aussi la raison pour laquelle au Royaume-Uni, depuis quelques jours, pro et anti-Brexit sont repartis de plus belle en campagne, manière de peser et surtout d'influencer la suite des négociations. C'est une correspondance à Londres d'Otsoufi.
Deux ans et deux mois après le référendum, rien n'a vraiment bougé. Les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont dans l'impasse et ceux qui ont voté contre le Brexit reprennent espoir. L'idée d'une nouvelle consultation populaire sur le résultat final des négociations gagne du terrain, portée par le mouvement People's Vote. Une deuxième chance en quelque sorte pour les europhiles. Et ils ont obtenu un soutien de taille, un don d'1 million de livres par le fondateur de la marque de vêtements Superdry, Julian Duckerton, pour qui le Brexit va être un désastre.
Si vous êtes dans un restaurant et que vous commandez du poulet et qu'il ne vous est pas servi assez cuit, est-ce que vous restez assis et vous le mangez ou est-ce que vous commandez un steak à la place? C'est aussi simple que ça, ils ont un poulet pas cuit qui va les rendre malades.
Le camp adverse, lui aussi, remobilise ses troupes avec réunion publique et tour du Royaume-Uni en bus. L'organisation Leave Means Leave considère que le plan du gouvernement ne respecte pas le vote de 2016, que la rupture avec l'Union européenne n'est pas assez nette. Nigel Farage, qui avait milité pour un Brexit dur, repart en campagne.
Le vote était un choix politique. Nous avons voté pour quitter l'Europe. Ça me tient encore plus à cœur maintenant que je ne l'étais lors du référendum en 2016. Et c'est dû à la façon dont les politiciens se sont comportés, c'est abject.
Il reste à Londres deux mois pour s'entendre avec Bruxelles et respecter la date officielle du Brexit, alors que le pays lui-même n'a jamais été aussi divisé sur la question.
Et puis toujours s'agissant du Brexit, j'ajoute que le tout nouveau chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, a d'ores et déjà mis en garde contre les conséquences d'un Brexit sans accord qui menacerait selon lui l'unité de l'Europe pour une génération. Jeremy Hunt qui est arrivé par ailleurs à Washington aujourd'hui, où il entend bien là aussi lancer un avertissement, en l'occurrence que Washington aille plus loin pour contrer l'attitude, je cite, agressive et malveillante de la Russie. Une manière de pointer du doigt les ambiguïtés de l'administration Trump face à Moscou. La Russie, justement, il en est question aujourd'hui à l'occasion tout d'abord du 50e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague par les chars soviétiques. Avec cette question, le schéma de base de la politique de Moscou a-t-il changé depuis 1968, 50 ans plus tard, en proie au délire de récupérer son empire perdu? Il semble que la Russie agisse toujours comme si les États satellites soviétiques continuaient d'exister, comme l'ont montré dernièrement les exemples de l'Ukraine et de la Crimée. Et puis s'agissant justement de la Crimée, c'est là l'autre actualité qui nous conduit à nous interroger sur le système Poutine actuel. Ce mardi marque le 100e jour de grève de la faim du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Sibérie, lequel a toujours refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée. Pour l'heure, le Kremlin ne laisse entrevoir aucune libération possible, et ce, en dépit de la dégradation de son état de santé. Ce qui n'empêche pas certains de se mobiliser, c'est le cas dans cette tribune publiée aujourd'hui par le journal Le Monde, à laquelle participe notamment l'écrivain franco-américain Jonathan Little. Pour lui, le cas Sentsov est malheureusement emblématique du système Poutine, il le dit à Mathieu Laurent.
Très clairement, ça doit être un calcul de sa part qu'il a plus à perdre qu'à gagner en le libérant. À mon avis, ça c'est évidemment une pure spéculation, mais je pense que s'il le libère, il pense que ce sera montrer un signe de faiblesse en interne. Et pour lui, il doit toujours évidemment calculer l'interne contre l'externe, l'externe étant nous. Pour nous, c'est de faire monter le coup politique de laisser mourir Sentsov, d'où ses pétitions, d'où ses tribunes, d'où ses appels aux différents dirigeants occidentaux pour que ces dirigeants expliquent directement à Poutine que si Sentsov meurt, ça va être encore un point assez grave pour la Russie.
Mais vous croyez vraiment que ce sera un problème en interne?
Je ne sais pas comment Poutine calcule. Peut-être qu'il veut faire un exemple pour tous les autres prisonniers ukrainiens, pour lesquels Oleg Sentsov fait sa grève de la faim. Peut-être aussi que ce n'est pas évident pour lui par rapport aux différentes forces politiques qui tournent autour de lui, dont il est un peu l'arbitre plutôt que le chef, de montrer qu'il cède à une pression de l'Occident quelle qu'elle soit. Donc c'est même pas le contenu de ce qu'on lui demande, c'est le fait tout simplement de dire oui à une demande qui peut effectivement lui poser des problèmes.
Et si Oleg Sentsov devait décéder alors ?
Je pense que l'image de la Russie est tellement dégradée par tellement d'autres questions que ça ne fera qu'un mauvais point de plus. Ceux qui, bec et ongle, en France et en Occident, soutiennent la Russie, il y en a beaucoup, trouveront un moyen de faire glisser ça sous le tapis et d'excuser cette histoire. Et ceux qui considèrent que la Russie est une menace pour les démocraties occidentales, pour l'ordre mondial d'après-guerre tel qu'on l'a conçu, ça sera un mauvais point en plus, mais ça viendra de s'ajouter à une très longue liste d'offenses gravissimes de la part de la Russie. Les Russes n'en sont pas à une saloperie près. Laisser mourir Sentsov, c'est rien pour eux. Donc maintenant, Sentsov, il peut tranquillement crever, ça fera du bruit pendant une semaine, et puis on oubliera. Donc je suis assez pessimiste.
Le romancier Jonathan Little, il répondait à Mathieu Laurent. La Corée du Nord poursuit ses activités nucléaires malgré les intentions affichées au printemps dernier par son dirigeant Kim Jong-un. C'est ce que déplore aujourd'hui l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les forces de sécurité afghanes ont mis fin cet après-midi à l'attaque spectaculaire qui aura duré plus de 6 heures ce matin dans le centre de Kaboul. Plusieurs roquettes ont été tirées sur deux quartiers de la capitale. Alors cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique via son agence de propagande, mais déjà certains estiment qu'elle pourrait tout aussi bien porter la marque des talibans et que le fait de ne pas la revendiquer pourrait faire partie d'une nouvelle tactique de la part des insurgés. 10 minutes pour en finir avec 8 années de sacrifice. 10 minutes, c'est le temps qu'aura duré le discours d'Alexis Tsipras ce matin pour annoncer que son pays avait, je cite, repris en main son destin. Alors pour l'occasion, le Premier ministre grec avait choisi l'île d'Ithaque, dernière étape de l'Odyssée, une manière pour Alexis Tsipras de comparer le courage de ses concitoyens à celui d'Ulysse. Pas sûr en revanche que cela aura suffi à convaincre une population encore très largement désabusée. C'est une correspondance d'Angélique Couronis.
Sur fond de mer, en bras de chemise et avec les cigales en orchestre, Alexis Tsipras a choisi de faire un parallèle entre l'Odyssée d'Ulysse et les épreuves des Grecs de ces 5 dernières années.
Aujourd'hui, on démarre avec vision et détermination pour une nouvelle époque, pour notre pays, avec responsabilité et persistance, pour ne jamais revenir à la Grèce des déficits et de la banqueroute, mais avec courage aussi, pour la reconnaissance de notre patrie, pour un pays d'égalité, de démocratie, avec une justice sociale.
Des banquiers sont devenus premiers ministres et des premiers ministres banquiers, a-t-il souligné. Maintenant, c'est fini. Ithaque n'est qu'un début, la Grèce prend aujourd'hui son destin en main, a conclu le Premier ministre, non sans rappeler la percée du fascisme dans le pays. Cependant, selon un dernier sondage, 75% des Grecs ne croient pas en une sortie de la crise, même dans les 12 prochains mois.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a une nouvelle fois menacé aujourd'hui de renvoyer en Libye des migrants, dont environ 170 se trouvent actuellement sur un navire en Sicile avec interdiction de débarquer. Soit l'Europe commence à défendre ses frontières et partage l'accueil des immigrés, soit nous commencerons à les ramener dans les ports d'où ils sont partis, a écrit sur son compte Twitter le chef de la Ligue d'extrême droite. En Allemagne, les nouvelles données statistiques publiées aujourd'hui ne devraient pas manquer d'alimenter le débat très vif. Déjà là aussi sur la question migratoire, on y apprend qu'un nombre croissant de migrants trouverait des emplois pour le directeur du Bureau allemand du travail. Il n'y aurait donc aucune raison d'être excessivement pessimiste quant à la capacité du pays à faire face à l'afflux exceptionnel de réfugiés. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Les hommes jeunes ont les meilleures perspectives d'intégration selon l'Office fédéral pour l'emploi. La plupart de ceux qui sont arrivés à l'automne 2015 ont entre-temps appris suffisamment d'allemand pour suivre une formation professionnelle ou travailler si leurs diplômes sont reconnus dans le pays. Cette main-d'œuvre prête à accepter les emplois peu prisés des travailleurs locaux comme le soin aux personnes âgées ou l'artisanat constitue un appoint précieux sur un marché du travail tendu marqué par la pénurie en personnel qualifié. En Allemagne, de plus en plus de voix réclament désormais la possibilité pour les jeunes demandeurs d'asile en cours de formation ou ayant déjà un emploi de rester dans le pays, même lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile. Les sociaux-démocrates, notamment, réclament l'instauration d'un système de passerelle qui permettrait de passer de la catégorie du droit à l'asile politique à celle de l'immigration légale sur le marché du travail. Les milieux d'affaires et les libéraux jugent absurde de renvoyer chez lui un réfugié déjà intégré. Le gouvernement travaille à l'heure actuelle à une réforme de la loi migratoire, mais l'idée des passerelles se heurte à l'opposition catégorique des conservateurs bavarois au sein de la majorité.
Elle était devenue au fil des ans le symbole du délabrement des prisons françaises. La maison d'arrêt de la santé à Paris, fermée depuis 4 ans pour travaux, rouvrira ses portes le 7 janvier 2019. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. Et elle sera notamment équipée d'un nouveau système de brouillage téléphonique destiné à contrer la prolifération des portables en prison. Rien que pour l'année 2017, plus de 40 000 portables et accessoires ont été saisis. C'est 20% de plus que l'année précédente. Maïwenn Bordron, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On savait déjà que les téléphones entraient facilement en prison, notamment par projection dans les cours de promenade ou via les parloirs. Mais comment expliquer que le nombre de portables saisis soit en constante augmentation ?
40 067 portables exactement ont été saisis l'année dernière. Un chiffre à nuancer tout d'abord parce que la direction de l'administration pénitentiaire comptabilise à la fois les téléphones, les accessoires comme les chargeurs, mais également les cartes SIM. Impossible donc de savoir combien de portables ont réellement été saisis. Ensuite, il faut analyser ce chiffre au regard du nombre de détenus qui augmente tous les ans. Ils étaient 68 000 dans les prisons françaises en 2016 contre 70 000 l'année dernière. Enfin, on peut souligner l'importance du portable qui n'a cessé de grandir au sein de notre société. Il est devenu un vecteur de lien sociable incontournable, ce qui peut expliquer que les détenus soient plus enclins qu'il y a 10 ans à franchir la limite de la légalité pour rester connectés au monde extérieur. À titre indicatif, seuls 5 000 téléphones et accessoires avaient été saisis dans les prisons françaises en 2007.
Et puis l'efficacité des brouilleurs d'ondes semble également avoir atteint ses limites. Comment le gouvernement compte du coup lutter contre la prolifération de ces portables en prison ?
Deux grands chantiers ont été lancés par le ministère de la Justice. Tout d'abord, le brouillage effectif des portables, vous l'avez dit. Plutôt que d'investir dans des brouilleurs qui deviennent vite obsolètes, avec par exemple le passage de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G, c'est un prestataire qui sera chargé de la mise en service et de la maintenance des systèmes de brouilleurs, de télécommunications mobiles. Autre chantier, l'installation de 50 000 téléphones fixes dans les cellules des détenus. Objectif, faciliter leur réinsertion, mais surtout lutter contre la circulation de téléphones portables dans les prisons françaises. Une mesure qui ne coûtera pas un centime à l'administration pénitentiaire. C'est un autre prestataire qui installera les téléphones et se rémunérera par le prix des communications payées par les détenus.
Maïwenn Bordron, merci. Au lendemain de la lettre ouverte du pape François appelant les fidèles à se mobiliser pour garantir la protection des mineurs contre des prêtres pédophiles, le père Vignon a décidé de lancer une pétition. Dans sa lettre, ce prêtre de la région de Valence s'adresse directement au cardinal Barbarin pour lui réclamer sa démission. Le cardinal Barbarin est notamment, vous le savez, accusé d'avoir tardé à prendre des mesures contre des actes de pédophilie. Jade Péchira, bonsoir.
Bonsoir.
Alors en réalité, le père Vignon est connu pour son franc-parler. Il est depuis des années au cœur de ce combat contre les actes pédophiles. En revanche, ce qui semble nouveau, c'est que le père Vignon se soit associé cette fois-ci à des victimes pour dénoncer ensemble donc le silence de l'Église.
Oui, c'est d'ailleurs comme ça que commence la pétition lancée sur Internet. L'union entre un prêtre et les victimes est possible. S'ensuit la lettre du père Vignon. L'heure est venue de passer aux actes, écrit le prêtre. Afin de ne pas être considéré comme votre complice, je me lève pour affirmer ouvertement ce que je pense. Non seulement le prêtre valentinois de demande publiquement au cardinal de Lyon de donner sa démission, mais il insiste sans pitié sur les errements de son propre supérieur. Le fameux lapsus de l'archevêque lorsqu'il avait déclaré que grâce à Dieu, les faits étaient prescrits, ou encore le fait que le père Prénat soupçonné d'agression sexuelle sur de jeunes scouts entre 86 et 91 soit encore prêtre à ce jour. Donner votre démission serait une mort sociale, certes, mais vous seriez enfin à la hauteur des événements, cingle le curé à l'attention de son confrère. entre ces deux parties de l'Église. La rupture est consommée. Le père Vignon appelle d'ailleurs tous les prêtres qui le souhaitent à signer cette pétition, ceux qui, comme lui, sont conscients de l'importance du mal fait aux victimes. Des victimes qui, sous la plume de plusieurs associations, commentent la lettre du père Vignon d'un simple « merci à toi Pierre ».
Et merci à vous Jade Péchira, puis on précisera que la pétition a d'ores et déjà recueilli plus de 1500 signatures. On termine avec un mot du ciel. Pour demain, le soleil et la chaleur domineront, mais le temps sera encore nuageux près de la Manche et encore orageux sur les reliefs. Les températures 13 à 25 le matin, 21 à 35 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Prochain rendez-vous avec la rédaction à 22h avec Camille Magnard.